Une fois, je me suis trouvé à la pêche en mer sous un soleil de plomb et rien à voir. J'ai essayé l'eau de mer, mais elle m'a donné encore plus soif. C'est un peu pareil pour certaines gens. Dès qu'ils goûtent à l'argent, ils en sont avides et jamais satisfaits. Une fois dans un reportage, j'ai pu voir ce que contenaient les placards de gens célèbres. Céline Dion posséderait plusieurs centaines de paires de chaussures et d'autres ont autant de chemises ou de costumes qu'un magasin de vêtements. Pour la bouffe, c'est caviar ou ortolan tous les jours et une cave digne du plus grand sommelier de la capitale. Je continue à lire dans le chapitre 5 de l'épître de Jacques. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches. Pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Versets 1 et 2. Cet avertissement qui est adressé aux riches du 1er siècle a toujours été d'actualité et l'est encore aujourd'hui. Tragiquement, amasser des biens est encore une activité très répandue à notre époque, même parmi certains qui se disent croyants ou chrétiens. Pourtant, si Dieu leur confie des biens matériels, c'est afin qu'ils les utilisent pour sa gloire et non pour leur petite personne. Le mot pour richesse désigne les richesses en général, mais aussi des denrées périssables comme les aliments. Il faut dire qu'à cette époque, celui qui avait toujours de quoi manger vivait dans le luxe, alors qu'aujourd'hui, dans nos pays nantis, c'est considéré comme normal. Le mot traduit par « pourri »,« vos richesses sont pourries », n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Dans le grec classique, il désignait du bois ou des fruits pourris ou de la chair en état de décomposition. La forte colère de Jacques s'explique par le fait qu'on lui avait sans doute rapporté que dans les églises, les Juifs nantis entassaient de la nourriture comme s'ils se préparaient à subir un long siège alors que des croyants mouraient de faim. Jacques ajoute « Vos vêtements sont rongés par les mites ». Pendant très longtemps, la richesse se mesurait aussi aux vêtements, comme je l'ai déjà dit. Le mot ainsi traduit désignait l'habit visible comme la robe, le manteau ou une cape. Souvent richement brodée et ornée de bijoux, ces vêtements faisaient partie de l'héritage. Mais les entasser est tout aussi ridicule et inutile que d'amasser des denrées périssables parce que tôt ou tard, ils finissent dévorés par les mites. Quel est l'intérêt de nourrir ces sales bestioles? Je continue le texte. Votre or et votre argent sont corrodés et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Verset 3. Dans les temps antiques, l'or et l'argent étaient les métaux précieux de référence et les plus recherchés. Aujourd'hui, l'or exerce toujours la même fascination, mais l'argent beaucoup moins. Bien que ni l'un ni l'autre ne rouillent, au point de se désagréger, à la longue, ils se ternissent et perdent leur éclat. Le verbe traduit par « corroder » est un mot composé avec une préposition qui renforce le sens. Il veut donc dire « totalement corrodé jusqu'à être troué ». Et en effet, si l'or et l'argent ne sont pas suffisamment purs, ils peuvent contenir un élément qui au fil du temps va s'oxyder et disparaître, laissant un objet biscornu et corrompu n'ayant plus grand intérêt. Amasser des richesses, quelle qu'en soit la nature, n'a pas de sens. Le roi Salomon écrit « Qui aime l'argent n'en aura jamais assez et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. » Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tire leur possesseur si ce n'est le spectacle qu'il lui offre? D'où est le sommeil du travailleur qu'il ait peu ou beaucoup à manger? Mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous le soleil une calamité affligeante. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur, qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère, et il partira comme il est venu sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que, déjà, elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Fin de citation. Non seulement l'or et l'argent perdent leur éclat, mais ils témoignent d'une corrosion plus grave, car morale. À l'origine, le mot pour corrosion voulait dire poison. Le riche, qui a un million, en veut un autre, puis encore un autre, et ainsi de suite. Sa convoitise est un poison qui va le conduire dans le séjour des morts pour l'éternité. Au jour du jugement, les métaux précieux auront autant de valeur qu'un morceau de ferraille troué par la rouille. Non seulement les richesses ne seront d'aucun secours, mais ils condamneront les mauvais riches, ceux qui les possèdent et qui les ont utilisés uniquement pour leur compte personnel. En effet, Jacques dit que cette corrosion témoignera contre vous. Le style de vie arrogant des mauvais riches qui sont dépourvus de compassion et qui sont indifférents aux besoins des autres sera le motif de leur condamnation. Ce n'est pas tout, car cette corrosion morale sera également leur bourreau qui dévorera votre chair comme un feu, dit Jacques, symbole du jugement divin inévitable, fatal et final. C'est une image saisissante de l'enfer, un lieu maudit de châtiment conscient et éternel. Le fait que les mauvais riches aient entassé des richesses dans ces jours de la faim aggrave leur cas. Les jours de la faim est une expression qui définit la période entre la première venue de Jésus et son retour en gloire. Dans l'esprit de Jacques et de tous les écrivains sacrés, les jours sont comptés, ce qui veut dire que je ne dois pas épouser les valeurs terrestres et surtout pas amasser des richesses que de toute façon je ne pourrais pas emporter avec moi de l'autre côté. Les riches qui font profession de foi devraient donc utiliser leur argent pour aider la propagation de la bonne nouvelle du Sauveur et l'avancement du royaume de Dieu. Sinon, et comme l'écrit l'apôtre Paul, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Fin de citation. Je continue le texte. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Verset 4. Non seulement ces mauvais riches accumulent des richesses, mais Jacques les accuse de les avoir obtenues en exploitant au maximum leurs ouvriers. Loin d'être généreux envers les petites gens, les faibles et les défavorisés, comme Dieu l'a ordonné, les grands propriétaires leur ont dérobé une partie de leur salaire. À cette époque, les ouvriers journaliers étaient le fer de lance de l'économie agraire d'Israël et la loi de Moïse protégeait les faibles contre l'avidité de leur maître. Je lis un passage. « Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est d'humble condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un immigré habitant chez toi dans ton pays. Tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du soleil, car étant pauvre, il attend sa paye avec impatience. Sinon, il en appellerait à l'Éternel contre toi et tu porterais la responsabilité d'un péché. » Fin de citation. Les ouvriers escroqués et amputés d'une partie de leur salaire est une injustice qui prend forme humaine et dont le cri douloureux s'élève contre les mauvais riches et en direction du Seigneur des armées célestes. Cette expression sous-entend que Dieu va envoyer ses armées angéliques pour exécuter ses jugements. Je continue le texte. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Verset 5. Pour les Juifs qui étaient familiers avec les animaux qu'on mettait à l'engrais, l'illustration de Jacques est saisissante et pleine de sarcasme. Les mauvais riches étaient des coqs en pâte. Comme des bêtes destinées à la boucherie, ils se préparaient à subir un châtiment de Dieu qui serait terrible. Le verbe traduit par « vivre dans les plaisirs » n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Il signifie « vivre dans de douces et extravagantes voluptés aux dépens des autres ». Les mauvais riches juifs n'étaient pas des Robins des Bois avant l'heure. Ils dérobaient pour leur propre compte. Le verbe traduit par « vivre dans le luxe » signifie « poursuivre une vie de plaisir ». Ceux qui mènent un tel train de vie tentent en vain de satisfaire des désirs insatiables, ce qui fait qu'ils tombent toujours plus bas dans le vice. Une personne indisciplinée finit par perdre le contrôle d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Salomon a remué ciel et terre dans sa poursuite frénétique du plaisir, et comme il était l'homme le plus riche du Moyen-Orient, il en avait les moyens. Cependant, il n'a jamais perdu son sens des réalités ni la sagesse que Dieu lui avait donnée. Mais il a conclu cette expérience en disant que tout est dérisoire. Autant courir après le vent, il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Fin de citation. Je continue le texte. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. Verset 6. Les mauvais riches ont tout d'abord dérobé aux ouvriers journaliers une partie de leur salaire pour satisfaire leur convoitise. Maintenant, ils sont prêts à tuer ces innocents pour maintenir leur style de vie pervers. Le mot « innocent » est à prendre au sens de « moralement droit », un peu comme Jacques lui-même, puisqu'on le surnommait « Jacques le Juste ». Vous avez condamné. Ce mot signifie « prononcer une sentence contre quelqu'un », ce qui veut dire que les mauvais riches utilisaient les tribunaux et des juges véreux qu'ils soudoyaient pour faire condamner à mort les pauvres qui ne leur ont pas résisté parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se défendre. Ainsi, après avoir escroqué les petites gens qui étaient à leur service, ces requins se sont emparés par la force du peu de bien qu'il leur restait. Au premier siècle, comme d'ailleurs pendant presque toute leur histoire, en Israël, la corruption était rampante et la justice pervertie, et les Juifs violaient la loi de Moïse sans état d'âme. À la lumière de l'épître de Jacques, on comprend mieux la sévérité des paroles de Jésus quand il a dit « Si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde, à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. » Fin de citation. Nous arrivons à un nouveau paragraphe où Jacques va parler de la patience dans les épreuves. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit aux foules « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Fin de citation. Et avant de quitter ce monde, Jésus a dit à ses disciples, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Fin de citation. Dès le commencement de l'Église, les croyants ont dû subir des persécutions. L'apôtre Paul dit à de jeunes chrétiens, « C'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Et Pierre écrit, « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être rempli de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Sur cet arrière-plan de persécution, Jacques s'adresse aux croyants juifs qui souffrent et leur dit « Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. » Verset 7. Le changement de ton est brusque parce que Jacques passe des mauvais riches qu'il a violemment condamnés à leurs victimes qu'il veut consoler et encourager. Il les appelle amicalement « frères », ce qui est aussi un moyen linguistique de changer de sujet. Le verbe pour « patienter » est un nom composé qui veut dire « long avant de se mettre en colère ». Il décrit la patience quand on attend qu'un événement se produise. Au tout début de l'épître, Jacques a déjà parlé de patience ou endurance, mais il a utilisé un autre mot qui veut dire tenir bon dans des circonstances éprouvantes ou devant des gens pénibles. C'est le cas de Dieu qui est patient à notre égard. Littéralement, Jacques dit ici « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Cette venue, qui est la grande espérance des croyants de tous les temps, est inscrite en lettres de feu sur le calendrier prophétique divin comme sa prochaine intervention dans les affaires des hommes. Le mot pour « avènement » décrit un événement important ou nouveau ou les deux. Le retour de Jésus-Christ est mentionné environ 500 fois dans les Écritures. Quand il reviendra, il redressera tous les torts et corrigera tous les maux qui empoisonnent notre vie. Jésus a beaucoup parlé de son retour, surtout dans son discours sur le mont des Oliviers. Il a enseigné que son avènement serait précédé de signes précis et l'a décrit comme un événement spectaculaire, aussi impressionnant et reconnaissable que l'éclair dans le ciel. Ce sera un temps de séparation et de jugement. L'espérance du retour du Christ est particulièrement réconfortante pour ceux qui sont exploités et persécutés. Comme Jacques, l'apôtre Pierre espérait la venue du Seigneur durant sa vie. Il écrit « La fin de toutes choses est proche, menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Pour bien montrer comment le croyant doit attendre la venue du Seigneur, Jacques utilise une illustration qui était familière aux Juifs de Palestine. Il dit « Pensez au cultivateur, il attend les précieuses récoltes de sa terre, il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. » Verset 7. L'agriculteur attend et espère que ses terres vont produire suffisamment de nourriture pour le faire vivre. Mais les résultats ne dépendent pas entièrement de lui. Il a beau travailler dur et faire de son mieux, il dépend de la providence de Dieu. Il doit donc s'armer de patience devant une situation qu'il ne contrôle pas. La mention des pluies d'automne et du printemps, littéralement les pluies de la première et de l'arrière-saison, montre combien ceux qui vivent de la terre doivent s'armer de patience. En Palestine, les premières pluies arrivent en octobre-novembre, au moment des semailles, et les secondes en mars-avril, juste avant les récoltes. Je continue le texte. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Verset 8. Tout comme l'agriculteur doit attendre patiemment que ce qu'il a semé donnera du fruit, le croyant espère le retour du Seigneur. Bien que Jésus ne soit toujours pas revenu, son retour pour enlever son Église est imminent depuis son ascension. De plus, dit Jacques, soyez pleins de courage, littéralement affermissez vos cœurs. Ce verbe signifie aussi établir, soutenir, confirmer. Il est appliqué à Jésus quand il décida de manière résolue et avec courage de se rendre à Jérusalem, alors qu'il savait très bien qu'il allait devant une mort certaine. Jacques exhorte donc ceux qui ploient sous la sévérité des persécutions à tenir ferme. En général, c'est le Saint-Esprit qui affermit le croyant. Mais ici, c'est la responsabilité du fidèle. La vie chrétienne est paradoxale. D'un côté, je sais que c'est Dieu qui dirige tout, mais de l'autre, je dois souvent agir comme si tout dépendait de moi.